Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits insolites. Saviez-vous qu'un des rois décrits par l'Ancien Testament a commis un meurtre et un adultère, et que malgré ça, il a été désigné comme l'un des modèles à suivre dans la foi? Aujourd'hui, on va parler de David, encore une fois, un personnage fort important de la Bible, en prenant le temps de raconter l'aventure qu'il a eue avec Bathsabée. Le désir, l'amour et le pouvoir peuvent nous mener à bien des erreurs. Bonne écoute. Au début de chaque émission, j'aime prendre le temps d'interagir avec ceux et celles qui prennent la peine de nous contacter pour poser leurs questions ou même donner leur point de vue sur les sujets qu'on aborde. Cette semaine, j'ai sélectionné le commentaire de M. André de Montréal, qui, je ne vous le cache pas, c'est un de mes collègues au travail au Collège Saint-Jean-Vianney. Suite à l'émission qu'il a écoutée sur la relation intense entre David et Jonathan, il me félicitait pour l'émission, mais il voulait aussi poser une question. C'est très simple, mais à la fois très compliqué. Tout ça, c'est-tu vraiment arrivé? Une excellente question. Question très vaste, mais qui rejoint notre désir de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé derrière ces récits-là. Pour répondre à André, je dirais que les textes en question, qui proviennent du Livre des Rois et des Livres de Samuel, qu'on a lus au sujet de David, ont été écrits plusieurs centaines d'années après les événements qu'ils décrivent. Donc, David, c'est environ 950 ans avant Jésus-Christ. Il y avait probablement quelques documents royaux à cette époque-là qui ont été écrits, mais on n'a rien pour le prouver. On suppose qu'il y a eu une transmission orale de toutes sortes d'histoires qui le concernent, mais cette transmission-là, c'est surtout après l'exil à Babylone qu'on commence à en voir la trace, parce que c'est là qu'on va voir des récits qui commencent à être écrits. Et en particulier, c'est là que l'espérance en un Messie apparaît. Et ce Messie-là, il devait être à l'image du grand roi David. Donc, c'est à cette époque-là qu'on commence à écrire ces histoires au sujet de David. C'est au moins 300 ans après la mort de ce David-là que prennent forme les récits qu'on a et qu'on a lus lors de la dernière émission. En 300 ans, il y a quand même plusieurs choses qui se passent. Est-ce qu'on se rappelle, nous, de ce qui s'est passé ici au Québec il y a 300 ans? On a quelques grandes lignes, mais tous les discours, les dialogues, les détails, c'est plus dur à retracer. Avec la distance dans le temps, on peut croire que c'est plus difficile d'établir les détails des récits, les dialogues qui n'ont pas été conservés mot par mot. Bon, donc une première réponse à André serait que non, on ne sait pas si c'est arrivé comme ça. Par contre, la visée générale des histoires qui nous sont racontées, les valeurs qu'ils nous transmettent, les éléments importants, ben, eux, sont basés sur quelque chose. C'est pas pour rien qu'ils nous écrivent. Puis si les lecteurs de ces récits-là ont pris la peine de les inclure dans la Bible, c'est qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, quelque chose d'authentique, qui parlait de Dieu. Ces récits sont vrais puisqu'ils veulent nous transmettre des éléments importants sur la relation entre Dieu et son peuple. Et ces récits-là peuvent encore inspirer aujourd'hui les lecteurs qui veulent entrer en relation avec lui. Cependant, il n'y a personne qui peut affirmer que ça s'est passé exactement comme c'est écrit. Personne n'a enregistré des conversations entre David et Jonathan, par exemple. Mais l'histoire qu'on a écrite à leur sujet a été jugée assez inspirante par les lecteurs de l'époque que ça a été placé dans la Bible. Plusieurs textes ont été écrits à cette époque-là qui n'ont pas été placés dans la Bible. Il y a toutes sortes d'écrits qui ont été mis de côté, des textes deutéro-canoniques ou apocryphes, qui n'ont pas été placés dans la Bible parce qu'on jugeait qu'ils n'étaient pas assez inspirants ou inspirés. Donc, ça serait vrai aussi pour le récit qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que l'histoire de David et Bathsabée a vraiment eu lieu? On ne le sait pas. On n'a pas d'autres sources pour pouvoir la valider. Mais ceux qui nous la racontent le font pour une raison. Ils veulent nous transmettre quelque chose qui est vrai pour eux. Puis on va essayer de voir c'est quoi au cours de cette émission-là. Merci donc, André, pour cette question très pertinente. J'en profite pour saluer tous ceux et celles qui, comme André, nous écoutent en rediffusion au milieu de la nuit. Écrivez-nous à auditoire@radiovm.com pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions. On prend toujours le temps de les lire et de vous répondre par courriel, mais aussi on en sélectionne au moins un par émission pour répondre en ondes comme on l'a fait avec André. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la relation d'amitié forte, et peut-être même d'amour, entre David et Jonathan. On posait alors la question de l'homosexualité du grand roi David. Le récit qui suit, qu'on va écouter, nous montre que David était bel et bien attiré par la beauté et la sensualité féminine, puis peut-être même un peu trop. Alors voici comment un grand roi peut commettre de grandes erreurs. On va écouter, ça vient du deuxième livre de Samuel, le chapitre 11, les versets 2 à 17 et 26 à 27.
Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et l'on dit, « Mais c'est Bethsabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite. » David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté, puis elle rentra chez elle. La femme devint enceinte. Elle en fit informer David et déclara « Je suis enceinte ». David envoya dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Joab envoya donc Uri à David. Uri arriva près de lui. David demanda comment allaient Joab et le peuple et la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et lave-toi les jambes. » Uri sortit de chez le roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa propre maison. On vint dire à David, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Uri dit à David, « L'arche, Israël et Juda habitent dans des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'irai chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas cette chose-là. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita. Il mangea et but en sa présence, et David l'enivra. Uri sortit le soir pour aller se coucher sur son lit avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'entremise d'Uri. Il avait écrit dans cette lettre, « Mettez Uri en première ligne, au plus fort de la bataille. Puis, vous reculerez derrière lui. Il sera atteint et mourra. » Joab, qui surveillait la ville, plaça donc Uri à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes valeureux. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y eut des victimes parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hittite, mourut lui aussi. La femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort, et elle pleura son mari. Le deuil passé, David la fit chercher et la recueillit chez lui. Elle devint sa femme et elle lui enfanta un fils. Mais ce qu'avait fait David déplut au Seigneur.
Les traditions juives et chrétiennes ont tellement donné d'importance au roi David que cette histoire du second livre de Samuel nous paraît très étrange. En effet, le premier livre des Chroniques raconte aussi la vie de David, mais ne mentionne pas cet épisode-là et mentionne aucun élément négatif. Le livre des Chroniques donne un portrait du roi très différent. Il veut nous présenter l'idéal d'un roi. Alors que le livre de Samuel, lui, au contraire, ça ne lui dérange pas de nous montrer David sous un autre jour. Dans l'histoire, David fait venir Bathsabée. Pourquoi? Ben, c'est très simple, il veut avoir une relation sexuelle avec elle. Avez-vous remarqué que le point de vue de Bathsabée est absent dans ce récit-là? Est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'elle voulait participer à cet acte-là? Ou est-ce qu'il s'agirait d'un viol? On ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a bel et bien un adultère, puisque Bathsabée était déjà mariée. Cet acte est condamné à plusieurs reprises dans la Bible, alors l'adultère, c'est clair dans la Bible. Normalement, la sentence liée à un tel crime, ben, c'est la lapidation de la femme et de l'homme. Résultat de tout ça, Bathsabée est enceinte, il faut faire quelque chose. Pour s'en sortir, David veut obliger Uri à coucher avec sa femme pour que sa paternité soit évidente. Alors, ça serait beaucoup plus simple comme ça. Mais là, le récit devient particulièrement intéressant parce qu'on voit le contraste entre les manigances du roi David qui essaie toutes sortes de choses pour pouvoir rétablir l'ordre et de l'autre côté, la solidité morale d'Uri qui refuse d'aller dormir chez lui pendant que ses compagnons se battent avec les Ammonites. David va alors contrevenir à un autre des 10 commandements. Il a contrevenu au commandement de l'adultère et là, il va commettre le meurtre, il va faire tuer Uri pour pouvoir être avec Bathsabée. Comment est-ce que Dieu va réagir à tout ça? Un meurtre, un adultère commis par le roi? Eh bien, c'est le prophète Nathan qui va se rendre auprès de David et lui dire quelque chose de la part de Dieu. Et je vais vous le lire, c'est pas tellement long, ça vient ça aussi du deuxième livre de Samuel, chapitre 12, les versets 9 à 15. Alors c'est Nathan qui parle à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque dans cette affaire tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le fils qui t'est né, lui, mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il tomba malade. C'était un extrait du deuxième livre de Samuel, chapitre 12, les versets 9 à 15. Suite à tout ça, David va jeûner, va prier, pendant toute la maladie de cet enfant-là. Mais celui-ci, comme c'est annoncé, va finir par mourir. Pour consoler la mère, Bathsabée, David va coucher de nouveau avec elle. Elle tombera encore enceinte et va mettre au monde un second fils qui va porter le nom de Salomon. On le connaît, Salomon. C'est lui qui va devenir un autre grand roi et qui va bâtir le temple de Jérusalem. Et le texte biblique précise dès la naissance de Salomon que le Seigneur l'aima. Toute une histoire. On va regarder attentivement la réaction du Seigneur, parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans tout ça. D'abord, il fait preuve de compassion. Il pardonne à David qui a reconnu son péché. Mais en même temps, il va le punir en faisant mourir l'enfant qui est né de cette union-là. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me choque à quelque part. Comment ça se fait que c'est l'enfant qui paye pour les crimes du père? Pourquoi est-ce que l'enfant meurt? C'est pas lui qui a fait l'erreur. Mais dans le monde biblique, on croyait d'abord à la rétribution divine sur terre. Si quelqu'un suivait les lois du Seigneur, bon, il était récompensé par des richesses, des femmes, des enfants, une longue vie, tout ça. Mais au contraire, s'il contrevenait au commandement de Dieu, ben, il était puni par la stérilité, la pauvreté, la maladie et ultimement la mort. La rétribution de Dieu s'appliquait à celui qui commettait la faute. Mais on voit aussi que ça s'applique à sa descendance. Par exemple, dans une des versions des 10 commandements, celui du livre de l'Exode, ben, on a cet avertissement-là. « C'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, Silmaïs, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. C'est Exode chapitre 20, verset 6. Encore une fois, dans cet exemple-là aussi, on a les deux attitudes de Dieu, qui d'une part, une attitude de justice sévère, et d'autre part, de pardon, qui pour nous, ça nous semble opposé. Pourtant, elles sont très représentatives du Dieu de la Bible qu'on découvre à travers ces récits insolites-là. La punition de Dieu, ça ne s'arrête pas à la mort de l'enfant. Puisque David a pris la femme d'un autre, bien le Seigneur lui annonce qu'il prendra les siennes pour les donner à d'autres hommes. Mais cette parole-là, si on suit les pages de la Bible, ça va se réaliser au chapitre 16 du deuxième livre de Samuel, dans lequel on voit le propre fils de David, qui s'appelle Absalom, qui va capturer le harem de son père. Alors là, à ce moment-là, il y a toute une lutte de pouvoir pour savoir qui va diriger l'État. Alors, le fils de David, Absalom, capture le harem de son père et il va avoir des relations sexuelles avec les femmes de David, au vu et au su de tout le monde, sur la place publique. Le Seigneur indique aussi, dans son avertissement à David, dans sa punition, que l'épée ne se détournera plus de sa maison. Et de fait, le roi va être en guerre, d'une part contre de nombreuses nations, mais la violence va régner à l'intérieur même de sa propre maison. 3 de ses fils vont mourir de mort sanglante, Amon, Absalom et Adonias. Avec ce récit, l'image parfaite qu'on a du roi de David, qui est le roi modèle, celui qui donne son nom, le Christ, devait ressembler au roi David, mais cette image parfaite-là, elle vole en éclats. Lui qui était béni de Dieu et qui accumulait les victoires depuis son enfance, on se rappelle là, le fameux combat avec Goliath et la lutte avec Saül et tout ça, David était toujours du bon côté, Dieu était toujours là avec lui, la chance lui souriait, mais après ce récit-là, avec Bethsabée, mais la puissance de David va décliner. Ça va être une histoire après l'autre qui va être de plus en plus négative. Même chose pour le côté moral sexuel. Ben on va découvrir plusieurs histoires de viol, d'inceste dans sa famille. Ça va de mal en pire en commençant par cette histoire-là. Puis quant à son pouvoir, ben le souverain va connaître des échecs et ben il va finir par faire face à différentes révoltes au sein même de sa famille et de son peuple. Et ultimement, ben il va finir par mourir. Dieu punit donc David pour ses crimes. Mais il y a aussi le pardon, il ne faut pas l'oublier. Le récit se terminait sur une note beaucoup plus positive. Le texte indiquait que Dieu aimait Salomon, le deuxième enfant de David et Bethsabée. Avec lui, le règne de la maison de David va trouver une nouvelle grandeur et sa sagesse va être reconnue par toutes les nations environnantes. Après quelques notes de musique, on va continuer notre réflexion sur quelques situations actuelles qu'on peut réfléchir à la lumière de ce récit-là. Comment comprendre un Dieu qui punit et pardonne en même temps? C'est ce qu'on va voir. Ici Sébastien Daune, vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible. On vient de lire l'histoire de David et Bethsabée. On a vu comment David a commis un adultère, puis un meurtre. Et surtout, on a porté attention à la réaction de Dieu. Dieu qui va punir par la mort de son premier enfant, mais aussi qui va pardonner et aimer le deuxième, Salomon, le deuxième enfant de David et Bethsabée. Comment comprendre que la Bible nous présente David avec tous ces crimes-là? Bien, j'aime ça le dire. J'ai toujours apprécié le caractère très humain, parfois trop, des personnages de l'Ancien Testament. Avec certains d'entre eux, on est très loin des puritains ou des saints chastes et purs. Ce sont des hommes, des femmes qui sont présentés dans leur grandeur, mais aussi dans leurs limites. Puis même David, l'un des plus grands rois d'Israël, va commettre des crimes aussi graves que le meurtre et l'adultère. Et lui, malgré tout ça, reste proche de Dieu parce qu'il a reconnu sa faute à la fin de tout ça. Dans la Bible, souvent le Seigneur apparaît à la fois comme celui qui punit et celui qui pardonne. C'est le reflet d'un juste équilibre de la façon de voir Dieu. Puis aujourd'hui, trop souvent, on essaie d'oublier un côté ou l'autre. Les chrétiens vont s'engager dans des positions un peu plus extrêmes, puis vont oublier de prendre en compte l'une de ces images de Dieu. Par exemple, d'un côté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des pasteurs évangéliques prêchant le jugement de Dieu et la punition sans appel pour ceux et celles qui ne sont pas fidèles à ses commandements. Ou à l'opposé, peut-être que vous avez déjà entendu des catholiques qui ont tendance à jamais parler du péché ou de la justice ou du jugement de Dieu parce qu'ils veulent mettre en évidence que l'amour et le pardon de Dieu. Ce qui est vrai. L'un côté comme l'autre sont vrais, c'est dans la Bible. Mais je pense qu'il faut tenir en équilibre ces deux côtés-là. La Bible révèle ces deux aspects-là. Dieu punit et il pardonne. Il nous revient à nous donc, lecteurs, aujourd'hui, de découvrir comment s'articulent ces deux images-là dans la Bible, mais aussi dans nos vies d'aujourd'hui. Par exemple, un exemple d'équilibre entre la punition et le pardon, moi je trouve que c'est un excellent exemple, la justice réparatrice. Est-ce que vous connaissez ça? On appelle la justice réparatrice quelque chose qui se passe dans le système pénal ici au Canada, mais qui est aussi dans différentes organisations. C'est un bel exemple de l'harmonie qui est possible entre la justice et le pardon. Elle a pour but de favoriser la guérison des blessures morales faites aux victimes, aux délinquants et aux communautés suite à un délit. Pour ce faire, elle va organiser des rencontres entre des victimes, mais aussi avec des malfaiteurs et des membres de la communauté concernés qui veulent discuter du crime et de ses conséquences. Ainsi, il espère que les délinquants entreprennent des actions pour réparer leurs torts. C'est pourquoi on propose aux parties concernées de participer à la résolution du problème. Parce qu'ils trouvent simpliste de croire que juste une peine d'emprisonnement puisse tout simplement effacer toute la souffrance. Ils voient que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que par ces groupes de discussion, l'un et l'autre peut avancer et ultimement mettre un baume sur les plaies. La justice réparatrice, c'est un moyen de travailler à la réhabilitation par le pardon. Comme société, on a à réfléchir sur notre façon de gérer le pardon et la punition. On peut pas penser qu'un système judiciaire uniquement basé sur un des deux concepts, la punition, va être parfait. Il faut trouver un équilibre entre la justice et le pardon. Un autre exemple, peut-être plus proche de nous, c'est quotidiennement, dans la vie de ceux qui ont des enfants, tout parent doit à la fois punir son enfant et le pardonner quand il enfreint les règles de la vie familiale. Les deux attitudes sont nécessaires à son bon développement. Avec ces deux exemples-là, je crois qu'on peut comprendre la réponse de Dieu dans notre récit. Lui aussi, il fait preuve de justice et de pardon en même temps. On comprend mieux sa réaction lorsqu'on prend conscience que nous aussi, on est capable de ces deux attitudes-là dans notre vie de tous les jours. C'est déjà le moment de se dire à la semaine prochaine. J'espère que le récit de David et Bethsabée vous a donné à réfléchir sur la question de la justice et du pardon. Vous pouvez lire les récits et réflexions abordés dans notre émission dans un livre qui est intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, commentaires, questions, écrivez-nous. On prend un temps au début de chaque émission pour vos réactions. Par exemple, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la conduite de David. Que pensez-vous de cette façon dont la Bible nous le présente, avec ses faiblesses et ses crimes? Ou, alors, qu'est-ce que vous pensez de Dieu, présenté à la fois comme celui qui punit ou pardonne? Quelle image préférez-vous de Dieu? Écrivez-nous à auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on va continuer à parler de l'Ancien Testament avec le livre de Tobie. Est-ce que vous le connaissez, Tobie? Si vous ne le connaissez pas, allez tout de suite prendre votre Bible, commencez à le lire. C'est un chef-d'œuvre de la littérature juive qui raconte tout simplement une belle histoire d'amour. Le seul problème dans cette histoire, c'est que Sarah, la femme de Tobie, en fait, la femme que Tobie veut marier, éventuellement il se marie avec elle dans le récit, mais elle était déjà mariée à 7 autres hommes. Et chacun de ces 7 maris sont morts lors de la nuit de noces. Est-ce que Tobie va survivre à sa nuit de noces avec Sarah? Bien, il faudra attendre la prochaine émission pour le savoir. En terminant, merci à Alain Primeau pour sa lecture de la Bible et sa maîtrise de la technique. Et merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.